souvenir en lui tenant la main. Assise en face de moi, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui lui manque au réveil.
Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. Son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau.
Elle a laissé son cœur entre nous.
Entre nous et le reste.
Elle a laissé son cœur à genoux.
Sur le sol des promesses.
Elle a laissé son cœur entre nous. Laisse le pire et le reste, elle s'en fout.
Si tu savais comme c'est faux.
Joseph Kamel et Julien Doré sur Radio Chablais, c'était beau.
L'inforoute avec Ludal Conseil à Villeneuve, l'itinéraire parfait pour une retraite bien planifiée depuis 2015 en Suisse ou sous le soleil du Portugal. Ludal-conseil.ch.
Le trafic est fluide. Bonne route.
Vos inforoutes au 0800 700 725.
Tu fais la collection de sacs à dos? Tu aimes les fermetures éclair? Ou alors tu aimes simplement jouer? Inscris-toi sur radiochablais.ch pour participer au sac à dos Chablais et tente de repartir avec l'ensemble du sac à 8h10 dans les lève-tôt. Inscription et conditions de participation sur radiochablais.ch.
AXA Riviera Chablais, en partenariat avec le bureau de vente de Lézin, vous accompagne sur toutes les étapes du Tour du Chablais avec son assurance maladie complémentaire attrayante. Plus d'infos sur AXA.ch.
Sur un air de Riviera, le Montreux Choral Festival vous propose le concert exceptionnel de l'ensemble vocal Amaryllis accompagné du luthiste Aurélien Dubuis avec son programme Madrigal au Château de Chillon, dimanche 5 mai à 18h. Billets et réservations sur monbillet.ch ou choralfestival.ch.
La musique classique dans un écrin de verdure. Une programmation internationale par Béatrice Berru, Les Ondes Festival. Les 31 mai, 1er et 2 juin au pavillon des Mangettes à Monthey. Concert indoor et ambiance garden party avec restauration et bar. Lesondes.ch.
Samedi 4 mai, le Centre Mondial du Cyclisme UCI et Lillier Bike Club accueillent la première étape du Pomme Track Qualifier 2024. Au programme, championnat romand des U17, suivi du Pomme Track Qualifier avec les élites de la discipline. Animation et restauration sur place. Samedi 4 mai, cmc-aigle.ch.
Ce vendredi à 20h15, le FC Sion reçoit le FC Ville à Tourbillon dans le cadre de la 33e journée de Challenge League. Les billets sont disponibles dès maintenant sur fcsion.ch. Tous ensemble, poussons notre équipe dans sa lutte pour la promotion. Rendez-vous au match en toute sécurité avec notre partenaire Mobilité Régionale Alpes.
Dans le cadre des caves ouvertes des vins du Valais, les vignerons de Chamozon vous invitent à Vinissima du 9 au 11 mai. Saint-Pierre-de-Clage et Chamozon, 26 caves, 17 restaurants. Découvrez le plus grand vignoble du Valais durant 3 jours dédiés à la convivialité. Plus d'infos sur chamozon.com.
L'heure exacte avec Zurich, agent général Enrique Caballero, à chaque étape de votre vie grâce à ses nombreuses assurances et ses conseils de qualité. Zurich.ch.
Quasiment. Bon appétit à l'écoute de Radio Chablais. Il est l'heure de faire un point sur l'actualité de ce jeudi 2 mai 2024.
Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit.
Voici les titres du journal.
Feu vert pour le projet de fusion de Vétochion et Montreux. Mardi soir, les deux conseils communaux ont donné leur accord à la convention de fusion, ouvrant la voie à un vote populaire en septembre prochain. C'est une association qui révolutionne la viticulture en la rendant plus durable. Yvonne Grandeur Nature attire l'attention d'autres spécialistes du vignoble. Le prestigieux domaine de Sassicaia a fait part de son intérêt à adopter ce modèle durable. Le Tour du Chablais a explosé hier son nombre record de participants. Ils étaient plus de 1700 à courir dans les rues d'Aigle.
Pour la météo, un temps couvert. Pour aujourd'hui, un temps changeant. Pour demain, météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Julie Gay. Bonjour Julie.
Bonjour Axel, bonjour à toutes et tous. Vétochion et Montreux donnent leur feu vert au projet de fusion. Mardi soir, les deux conseils communaux se sont réunis simultanément pour se prononcer sur la convention de fusion des deux communes. Malgré l'opposition de la municipalité de Vétot, le conseil communal l'a approuvé avec 25 voix, 8 contre et une abstention. De son côté, le législatif de Montreux, en accord avec la municipalité, a massivement soutenu le projet avec 89 voix contre une opposition. Le retour du syndic montreusien Olivier Kfeller.
De notre côté, évidemment, il n'y a pas d'enjeu. On a tout fait pour respecter la volonté populaire des Vétosiens. C'est-à-dire la demande vient de la population de Vétot. Et puis, aux autorités de Montreux, que ce soit le conseil communal ou la municipalité, il nous a véritablement tenu à cœur que l'on donne une réponse pertinente aux citoyens de Vétot. Et c'est pour ça que nous avons travaillé durant 2 ans pour faire cette convention où vraiment c'est le fruit de longues discussions pour que tout le monde soit respecté. Et de l'avis même de la municipalité de Vétot, la convention est parfaitement applicable, elle est respectueuse de l'histoire de Vétot, de son identité. Et ça, ça nous tient véritablement à cœur parce que je pense que ces deux communes qui ont des histoires fortes, elles doivent être respectées toutes deux en cela.
La convention de fusion, ainsi validée, sera soumise à un vote populaire le 22 septembre prochain. Si les habitants des deux communes l'acceptent dans les urnes, sa mise en œuvre aura lieu d'ici au changement de législature en juillet 2026. Dans le cadre des recherches entreprises suite à l'incendie qui a complètement détruit un bâtiment commercial hier matin à Viona, une personne a été retrouvée sans vie dans les décombres. L'identification formelle de la victime est en cours.
Le syndicat chrétien du Valais a annoncé hier l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective de travail pour le personnel des établissements de soins longue durée.
Plus de 7000 employés du secteur pourront bénéficier d'une amélioration de leurs conditions de travail. Le SCIV a lancé en parallèle un appel à la Fédération des communes valaisannes concernant le personnel des structures d'accueil de jour de l'enfance. Sans nouvelles de la part de la Fédération des communes, les collaborateurs attendent des réponses à la suite du dépôt d'une pétition en février dernier concernant une éventuelle CCT, une situation qui surprend Bernard Tissière, coordinateur pour le SCIV.
J'avoue franchement que j'ai de la peine à comprendre et j'espère qu'ils entendront ce signal et puis qu'on puisse rapidement se mettre à table déjà pour discuter. Dans l'écologie, c'est surtout d'avoir maintenant assez rapidement, j'ai envie de dire avant la fin du mois de mai, une réponse de leur part de manière à ce qu'on soit fixé. Mais c'est bien clair aussi que suivant la réponse, on n'en restera pas là parce qu'on ne va pas baisser les bras et surtout quand on a du personnel aussi déterminé que ça.
Des propos recueillis par Xavier Borgeot.
Yvorne poursuit son chemin vers une viticulture plus durable.
Créée fin 2019, l'association Yvorne Grandeur Nature ambitionne de transformer le domaine chablaisien en un exemple de viticulture éco-responsable. Composée de vignerons et spécialistes du vignoble, elle vise entre autres à obtenir l'appellation Yvorne Grandeur Nature, gage de durabilité et rentabilité commerciale. Pour concrétiser ce projet, l'association collabore avec la Haute École de Changin. Après différents projets comme l'élaboration d'un cahier de mesures destiné à tous les vignerons membres, l'association commence à se faire connaître. Mieux que ça, des domaines de renommée internationale ont montré leur intérêt à suivre le même modèle. Les précisions du président d'Yvorne Grandeur Nature, Philippe Jex.
On a eu la surprise d'être contacté par un domaine extraordinairement prestigieux en Italie, qui est le domaine Sassicaia, qui avons entendu parler de notre projet Yvorne Grandeur Nature, avec qui on a eu des contacts étroits, des conférences, des téléphones, et qui pourrait, dans le fond, utiliser ce modèle appliqué à Yvorne, Yvorne Grandeur Nature, avec ses cahiers des charges, tous les projets que nous avons mis en scène, en se disant que peut-être ce modèle-là pourrait les intéresser pour ce domaine incroyable de Sassicaia, qui ne concerne d'ailleurs pas que la vigne, puisqu'il y a de la forêt, il y a des grandes cultures, il y a vraiment des prairies. C'est un énorme domaine en Toscane. Évidemment, pour nous, c'est assez flatteur de se rendre compte que notre modèle pourrait être repris par des grandes institutions étrangères comme Sassicaia.
Prochaine étape pour Yvorne Grandeur Nature, l'organisation de la deuxième journée de la biodiversité. Agendée ce samedi, elle propose à la population un parcours ludique à travers le domaine de 10h à 16h. Qui sème la route récolte le trafic. C'est la formule lancée ce matin à Berne par l'association Transport et Environnement qui milite pour davantage de mobilité douce et en transport public. L'ATE anticipe ainsi la votation qui aura probablement lieu le 24 novembre sur l'extension des autoroutes contre laquelle elle a fait aboutir le référendum. Ce qui est essentiel aux yeux de la vice-présidente de l'ATE, la genevoise Isabelle Pasquier, c'est de faire aujourd'hui les bons choix d'infrastructures de mobilité.
Le choix des infrastructures, c'est effectivement quelque chose de décisif. Parce qu'on a aujourd'hui un constat, c'est que notre mobilité, elle cause un tiers des gaz à effet de serre, essentiellement le trafic individuel motorisé, et c'est un des seuls secteurs qui n'arrive pas à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc on doit absolument trouver des moyens pour, en fait, proposer davantage d'alternatives pour que la population puisse choisir des modes de transport plus respectueux de l'environnement. Et ça, c'est le choix des infrastructures dans lesquelles on va investir. Et si on regarde à ce jour, le Parlement prévoit d'investir davantage dans les routes, 35 milliards, que dans le rail, 22. Donc là, pour nous, il y a un enjeu clair, ça doit être une priorité dans l'autre sens. Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est d'investir dans les infrastructures de transport en commun et de mobilité douce.
Des propos recueillis par notre correspondant parlementaire Serge Hubin. L'ATE milite par ailleurs pour le 30 km/h dans les localités. L'organisation menace de lancer le référendum si le Conseil des États devait confirmer la réduction de la liberté des villes de faire passer certaines routes et certains quartiers à 30 km/h. 1749, c'est un record. Jamais le Tour du Chablais n'avait vu autant de participants qu'hier à Aigle sur la cinquième étape de la manifestation de course à pied. Parmi tout ce monde, ce sont une nouvelle fois Dorian Marchal et Marjorie Berut qui l'ont emporté. Le local de l'étape et la Chorgue en ont profité pour accentuer leur avance au classement général de l'épreuve. Dorian Marchal a avalé le parcours de 8,3 km et près de 200 mètres de dénivelé en 27 minutes et 6 secondes. Le résident d'Aigle était très fier de briller à domicile.
Pour moi, c'est super important. En fait, cette année, je le fais non seulement parce que j'habite à Aigle, mais aussi parce que je suis en train de devenir suisse. Donc, normalement, l'année prochaine, je serai suisse. Et pour moi, c'est un peu un moyen de montrer aussi que je fais partie de la région. On a organisé l'Open Down il y a 10 jours à Aigle, qui était la première édition. Et c'est un peu un moyen pour moi de m'intégrer et puis profiter de la fête et de cette belle région.
Dorian Marchal n'était pas le seul à être heureux sur la ligne d'arrivée. 130e, le syndic d'Aigle, Grégory Devaux, était touché de voir le nombre de personnes que le Tour du Chablais pouvait attirer.
Je crois que voilà, la plus grande chose à prouver, c'est une magnifique course. Il y en a des très bons coureurs viennent au moins sur une, deux, voire même toutes les étapes. On a des grands gars comme Costa, comme Damien Hediger, qui est notre chef service, qui fait toutes les étapes et puis qui se sort bien. Donc ça rayonne loin la ronde et je pense que c'est bon pour la région, c'est bon pour le Chablais.
Vous êtes fiers de votre course quand même?
Ouais, je suis assez content. Je n'avais pas d'objectif. Après, voilà, 4,28 de moyenne au kill avec les montées. Je suis assez content.
Il ne reste plus qu'une étape sur ce 37e Tour du Chablais. Elle aura lieu mercredi prochain au Diableret. Un sujet signé Thierry Nicolet.
Course à pied toujours, la course des Deux Chapelles lancera comme à l'habitude la saison des épreuves de montagne ce dimanche à Monthey.
Au programme de cette 7e édition, 3 parcours différents destinés aux élites, aux populaires et aux enfants. Les premiers cités auront droit à un tracé de 9 km, agrémenté par 999 mètres de dénivelé positif entre la chapelle du Vieux-Pont et les Cerniers. Les bénéfices de la manifestation organisée par le Panathlon Club Chablais seront versés à de jeunes athlètes de la région. L'an dernier, ils étaient 12 à être parrainés. Les précisions de Caroline Dayen, organisatrice de la manifestation.
Le budget 2023, c'était 12 000 francs. On a soutenu 12 jeunes à hauteur de 1 000 francs. Et puis on essaye chaque année, via nos diverses actions, l'argent qu'on récolte tout au long de l'année, de pouvoir en soutenir un maximum, puisqu'on a de plus en plus de candidatures qui rentrent. Il y a peut-être 4-5 ans, comme ça, on devait aller chercher les jeunes pour les parrainer. Et puis maintenant, on est plutôt à se dire, mon Dieu, on va trouver tout cet argent pour pouvoir les soutenir et les aider. Donc on voit qu'on a un rôle à jouer, et puis cette course fait partie des clés pour y arriver.
Des propos recueillis par Thierry Nicolet. Pour le moment, ils sont 200 coureurs à s'être inscrits. Ils devraient être environ 300 dimanche, comme en 2023.
L'actu en continu sur radiochablais.ch.
La météo
avec la clinique Estémédis à la maison de santé de Colombier-Murat et ses traitements corporels pour sculpter votre silhouette en vue de l'été. Estémédis.ch.
Un temps couvert pour ce jeudi avec de fréquentes précipitations. Une accalmie semble tout de même se dessiner pour cet après-midi. La limite de la pluie neige, quant à elle, va s'abaisser de 2000 à 1500 mètres. 17 degrés au maximum en pleine aujourd'hui. 12 à Valilliers et 11 à Grillon. Demain, le temps sera changeant le matin avec quelques faibles précipitations et des éclaircies en pleine. L'après-midi, retour des nuages et des précipitations fréquentes, surtout en montagne, et une limite pluie-neige qui va s'abaisser à 1400 mètres. Décidément, hein, le printemps a du mal à s'installer. Il fera de 7 à 14 degrés en pleine, de 5 à 11 à Corbérier et de 1 à 8 à Morgin.
La météo pour les 6 prochains jours, radiochablais.ch. Are you serious? I try, but I can't figure out. I've been next to you all night, I still don't know what you're about. You keep talking, but not much coming out your mouth. Can't you tell that I want you? I say, yeah.
Words like silent raindrops fell. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence.
Remixé par Cyril sur Radio Chablais, 12h17 à 12h30, tout à l'heure, Plan Large avec Florian Barbet, comme invité Léa Béguin et Philippe Quesnel. A tout de suite.
Radio Chablais, les petites annonces.
Afin de faciliter le quotidien de familles en difficulté passagère, la Croix-Rouge Valais recherche des gardes d'enfants à domicile. Dossier à envoyer par mail à l'adresse ged@croix-rouge-valais.ch ou contacter le 027 324 47 88.
Les annonces, un espace à votre disposition. Radiochablais.ch.
Le Tour du Chablais avec Flexigru, le dernier maître, votre spécialiste de levage et de nacelle. Flexigru.ch.
Avec le groupe Lebas, vous avez un mois seulement pour saisir l'occasion de vos rêves.
Du 25 avril au 25 mai, que vous cherchiez une berline, une citadine, un coupé, un cabriolet, un SUV.
Bref, peu importe vos envies, parmi nos 700 véhicules en stock, il y a forcément celui qu'il vous faut.
C'est simple comme Lebas.
Jusqu'à 15% de remise, leasing et financement avantageux et garantie premium.
Cette offre est valable au garage de la Riviera à la Tour de Paix et au garage Interauto à Aigle, ainsi que dans toutes les agences du groupe Lebas.
Profitez du franc vitaminé. Cette semaine, pour 1 franc seulement, une botte d'oignon primeur ou une grenade. Maintenant à Migros.
Ce samedi, rendez-vous au marché d'Ivorne. Produits de la région, du jardin, de la forêt et du lac. Ne manquez pas nos animations, concours et planchettes apéro. De 9h à 13h sur la place du Torrent.
Renault.
Les plus belles histoires sont celles qui se réinventent sans cesse. C'est le cas de la Renault Clio E-Tech Full Hybrid. 145 chevaux, jusqu'à 900 km d'autonomie et jusqu'à 80% de conduite électrique en ville. Renault Clio, en version essence, dès 139 francs par mois. L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur.
Les étapes du Tour du Chablais avec Raiffeisen, sponsor principal.
Vive le printemps! Profitez d'un rabais jusqu'à 30% sur de nombreuses plantes de jardin. Jusqu'à samedi seulement, chez Do It and Garden Migros.
Maxime Banzon, agent principal AXA à Monté et son bureau de vente à Vouvry, vous souhaite une bonne journée.
La rubrique du professeur Stéphane Corr vous est présentée par les produits BliBlablo de Net Plus avec Internet, mobile et TV.
Bonjour Stéphane Corr.
Bonjour Mégane.
Plaisir de vous retrouver comme chaque semaine. Vous êtes notre spécialiste du numérique. On va parler des Jeux Olympiques. Je sais que vous êtes fan de sport. C'est votre passion. On a appris il y a quelques semaines en arrière que Aya Nakamura, la chanteuse, était pressentie pour chanter pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Et cette information, eh ben, elle fait un peu jaser, hein.
Oui, grosse polémique en France, mais comment Aya Nakamura pressentie comme ? Alors, bien sûr que cette information n'a pas encore été confirmée, c'est juste un présupposé par rapport à ce qu'elle est potentiellement envisagée comme pouvant être cette chanteuse-là.
Oui, c'est une rumeur, quoi, pour
voilà,
faire pour simple.
Pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien qui a été vraiment fermement confirmé. Mais le problème, c'est qu'il y a eu énormément de critiques et que ces critiques ne se sont pas basées uniquement sur sa qualité ou non-qualité artistique en tant que chanteuse, mais elle a été victime d'une campagne de ce qu'on appelle du bashing, de dénigrement, hein, qui est basée sur son physique, sur son origine, sur plein d'éléments qui n'ont rien à voir avec, finalement, sa qualité artistique.
Ouais, ce qui pose aussi problème, c'est Aya Nakamura, mais Aya Nakamura qui chanterait, on met tout au conditionnel, du Édith Piaf, hein. C'est l'ensemble qui pose problème.
Voilà, alors là, ça fait réagir la droite identitaire française, où on a eu dans certains partis des sortes de propos tels que il n'y a pas moyen Aya, ici c'est Paris, c'est pas le marché de Bamako, par rapport aux origines maliennes de cette Française, qui, je le rappelle aussi, est la chanteuse française la plus connue au niveau international. Après, on a le droit de s'opposer éventuellement à ce que ça soit cette personne qui représente, entre guillemets, la France. Mais la réalité, c'est que, finalement, il y a beaucoup de contenus dénigrants qui ont été partagés sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle des mèmes Internet. C'est des images qui illustrent la chanteuse avec des propos, ou celles qui mettent, par exemple, une photo d'Edith Piaf avec les paroles de Aya Nakamura sur un morceau de rap, ce qui... Bien sûr, n'est pas possible, vu qu'à l'époque des Piaf, il n'y avait pas ni ce type de
français, vraiment de rap, non,
parole, rien du tout. Donc voilà, le but étant de dénigrer, d'humilier, sous le couvert de l'ironie, de l'humour, du sarcasme, etc. Et le problème, c'est que beaucoup de gens vont relayer ces contenus sans forcément être eux-mêmes dans, finalement, une sorte de pensée raciste, ultranationaliste, extrémiste ou autre, mais ils vont quand même contribuer à l'amplification du phénomène qui, à la base, a été créé par des mouvements, justement, identitaires d'extrême droite et autres. Donc, il faut faire très attention à prendre de la distance et à essayer d'évaluer si le contenu qu'on est en train de partager a une connotation raciste ou discriminante. Donc, oui, on peut critiquer ou ne pas être d'accord avec la qualité de la prestation artistique, mais il faut faire la part des choses, et des fois, vaut mieux contextualiser ces messages et ne pas simplement partager, parce qu'il suffit d'un clic pour faire quelque chose. Il faut prendre un peu de distance.
Aya Nakamura, c'est un exemple. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus ces phénomènes où vraiment, sur les réseaux sociaux, on pointe du doigt quelqu'un à titre perso.
Oui, quand on n'a pas des fois grand-chose à dire sur la qualité de la personne, on va l'attaquer directement sur son physique, sa tenue, sur d'autres éléments qui ne sont pas l'élément clé dont on aimerait débattre. Et oui, c'est problématique. Et oui, c'est facile. Et oui, malheureusement, les gens relaient et amplifient ce type de campagne parce que, des fois, ils manquent de distance critique par rapport à la compréhension de la nature des contenus. Moi, j'ai des gens qui me sont dit « Oui, mais il faut séparer l'humour de ceci et de cela. » Non, si le contenu qui, lui-même, a cette connotation raciste, discriminante, dégradante, il n'y a rien à voir avec l'humour. Je suis désolé. Il y a quelque chose qui est dit au niveau de la Commission fédérale contre le racisme, qui dit que aucun droit humain, y compris la liberté d'expression, ne peut être utilisé comme une justification à une atteinte à la dignité humaine. Et c'est aussi présent au niveau de la Déclaration des droits de l'homme, où le respect d'autrui est un élément fondamental. C'est aussi défini dans la notion de citoyenneté numérique, que ce soit au niveau suisse ou européen, où le respect d'autrui est aussi une valeur fondamentale.
Ça se trouve, ça aurait été plus simple que Édith Piaf chante du Aya Nakamura, ça nous aurait évité beaucoup d'histoires, non ?
Alors, avec l'intelligence artificielle, on devrait pouvoir y arriver.
Lancez l'idée, Stéphane. À la semaine prochaine.
La rubrique du professeur Stéphane Corr vous a été présentée par les produits BliBlablo de Net+, distribués par Genedis.
When the leaves turn brown, I watch them burn across the sun and above the clouds. Sirens clear, I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out, living forever in a ghost town.
me, I'll save you. A miracle that was meant for two. I'll save you, you save me. A miracle with every beat of my heart.
Oh yeah, oh 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 yeah, oh 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 yeah,
beat of my heart.
Oh yeah, oh oh yeah, oh 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 yeah, oh 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 yeah,
beat of my heart.
My world revolves around us. Daddy's the lead role in my story. He came for fun, now he adores me. You must think high of yourself to think you could break a heart you never had. He thinks that he's special, the best one to me, but he's never mentioned in my diary. He thinks my world crumbles whenever he leaves. The plot twist, here comes the I'm me. You're irrelevant if your name is not in the teenage girl's diary. You can't be dead to me if you don't exist to me. Who's he to think that I fall for fools? You can't win the game if I change the rules. The diamonds and jewels don't make you a cool guy. I thought I could like you. You must think high of yourself to think you could break a heart you never had. He thinks that he's special, the best one to me, but he's never mentioned in my diary. He thinks my world crumbles whenever he leaves. Here comes the plot twist, here comes the
à midi et demi sur Radio Chablais. Voici Plan Large.
Plan Large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan Large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Léa Béguin, Philippe Canel, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est la première fois dans cette émission qu'on multiplie les micros, hein, et c'est tant mieux. On va parler avec vous de cette exposition à Saint-Maurice, Femmes et artistes après 1930, à la Fondation Atelier d'artistes. Vous y êtes, vous œuvrez tous les deux comme co-commissaires de cette exposition. Ça va être l'occasion pour nous, on y est, hein, on est à la Fondation Atelier d'artistes à Saint-Maurice. C'est le lieu choisi, évidemment, c'est une évidence. Et puis, on va parler de cette exposition, mais aussi du but et des défis de cette fondation. On va peut-être commencer par la décrire avec vous, Léa Béguin. C'est quoi la Fondation Atelier d'artistes?
Oula, grande question.
Petite réponse.
Ouais.
Alors, on a le temps.
Oui, mais alors c'est une fondation qui a été fondée en 2004. Philippe, tu me dis si je me trompe, hein, mais...
Oui, oui, fait, c'est 20 ans.
Ça nous met en effet ce chiffre de 20 ans sur lequel on reviendra peut-être.
Elle est adulte.
Et donc, il y a vraiment, avec cette fondation Atelier d'artistes, un désir de conservation des œuvres en particulier des fonds d'ateliers d'artistes qui viennent de Suisse romande. Et depuis 2018, la Fondation Atelier d'artistes a des bâtiments historiques de Saint-Maurice. Et depuis 2021, il y a des expositions qui sont organisées dans ces bâtiments. Et chaque année, tous les deux ans, en fait, il y a aussi une publication qui sort. Donc là, on est à la troisième exposition qui se nomme justement « Femmes et artistes ». Après 1930.
Alors on reviendra assez largement sur cette exposition, sur l'histoire aussi que vous interrogez, hein, l'histoire des femmes dans l'histoire de l'art, un peu masquée. Hein, on y reviendra tout à l'heure. Quel est le but quand cette fondation se crée en 2004? Vous faites partie des membres fondateurs, Philippe Canel. A priori, comme ça, moi, je me suis dit, mais c'est le boulot des musées, ça, de prendre les œuvres et de les conserver.
Oui et non, mais les musées ne peuvent pas, n'ont pas les moyens de préserver des fonds complets d'ateliers. Donc généralement, les musées écrèment et choisissent des pièces qui ont sens par rapport à leur collection. La Fondation Atelier d'artistes a une mission qui est intermédiaire entre les institutions et d'autres institutions. C'est tout simplement de préserver des fonds d'ateliers et de la documentation de façon à éviter que les œuvres d'artistes soient détruites trop rapidement ou dispersées et de donner une seconde chance à des artistes qui ne sont pas évidemment
Picasso,
voilà. Félix Vallotton ou Ferdinand Hodler, mais qui sont des artistes importants.
Suisse,
et là, je pourrais dire des artistes importantes dans le cadre de cette exposition.
Il faut dire que les héritiers d'artistes se trouvent devant un problème. Hein. Encore une fois, quand on ne parle pas de Picasso ou de Hodler, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, hein? C'est pas forcément ça n'a pas forcément une valeur marchande, ça n'a pas forcément. Et puis ça coûte quoi de garder des œuvres.
Ben, le problème principal rencontré, c'est que souvent ces œuvres, ces ateliers, ces fonds d'ateliers sont dans des immeubles et la valeur immobilière est beaucoup plus élevée que la valeur mobilière. Donc souvent, les héritiers doivent vider l'espace.
Ah, liquider les lieux, bien sûr.
Les lieux, en effet. Et c'est à ce moment-là que souvent les choses sont détruites de manière un peu trop rapide, irrationnelle ou tout simplement dispersées.
Et triste.
Non, mais enfin, c'est une question qu'on va poser d'ailleurs, si on peut le mentionner, le 10 octobre ici, dans le cadre d'une rencontre qu'on va organiser autour de la question du patrimoine, avec des personnalités majeures dans cette question-là. Et puis, on va poser justement cette question-là du patrimoine. Dans le fond, quelles sont les limites de la conservation et de la destruction? Parce que les deux vont de pair.
Bon, il y a quand même, Léa Béguin, une définition de ce qu'est un artiste. Hein. Si mon oncle, enfin je vais pas dire mon oncle, parce que mon oncle était vraiment un artiste, donc c'est pas le bon sujet. Mais voilà, mon beau-frère, j'en ai pas, donc très bien. Mon beau-frère peint le dimanche, il, même si sa famille a envie de conserver ça, il va pas forcément pouvoir venir à vous. Il y a une définition de ce qu'est un artiste, il y a une reconnaissance quand même.
C'est ça, mais la Fondation Atelier d'artistes, c'est vrai, a mis une certaine définition pour pouvoir justement accepter ou non aussi
des fonds
et justement il y a le fait par exemple d'avoir fait des écoles d'art et aussi avoir exposé. Donc oui, il y a quelques critères en fait quand même pour pouvoir accepter ces artistes.
Des critères qui sont repris d'ailleurs de Visarte, qui est l'association des artistes, qui est une association fêtière nationale, mais avec des antennes cantonales. Il y a Visarte Valais, Visarte Vaud, Visarte Fribourg. Et donc, on s'est calqué sur ces critères-là de définition de ce qu'est un artiste.
On parle toujours de peinture?
Non.
Non. Vous avez des sculptures aussi dans vos fonds, par exemple?
Oui.
Mais pas de femmes.
Ah bon.
Pas encore.
Non, pas encore. On a de la tapisserie, on a de la gravure, ouais.
Je pose cette question par les soucis de conservation, évidemment. Hein. Stocker des tableaux, ça a déjà ses exigences. Des sculptures, ça demande encore plus d'espace, plus de défis.
Oui, on a des dizaines de milliers de dessins. Juste pour vous dire les choses, sans vouloir se vanter, parce que c'est un des problèmes rencontrés par la Fondation. Cette Fondation possède plus d'œuvres que les musées cantonaux du Valais et musées cantonaux vaudois réunis.
Ah oui?
Oui. Donc, ça vous donne une idée de l'ampleur des collections. Mais cette masse d'œuvres est légitimée par le fait que, justement, la Fondation n'écrème pas. Mais elle estime que pour raconter des histoires et préserver l'œuvre d'une ou d'un artiste, il faut avoir une certaine masse et de la documentation.
Alors, justement, vous disiez, vous avez utilisé ce mot de fonds d'atelier. Hein. C'est ce que vous venez de nous dire, là, dans ce que laisse le peintre ou la peintre, puisqu'on va parler des femmes. Y a des tableaux, il y a aussi peut-être des esquisses, des choses qui ont été des objets de travail pour lui avant l'œuvre finale, des carnets, des dessins, tout ça.
Il y a de la correspondance, il y a des contrats, il y a des photographies, il y a des
carnets aussi.
Des carnets. Mm-hmm. Et en définitive, si on veut faire connaître une ou un artiste, on a besoin de tout ce matériel-là. Mm-hmm. Surtout pour des artistes qui n'ont pas eu leur catalogue raisonné, leurs expositions, leurs monographies. Donc c'est une nécessité absolue que d'avoir cette documentation. Donc la Fondation est à la fois un musée, puisqu'elle préserve des œuvres de manière pérenne, définitive donc. Elle est une archive, parce qu'elle conserve de la documentation, et elle est en même temps une galerie d'art, et ça peut paraître un petit peu choquant.
Alors elle vend aussi.
Ah, elle vend des œuvres, oui. Elle vend, en effet, dans les donations qu'elle reçoit, la conservation décide de ce qui est inaliénable, c'est-à-dire conservé sur le plan muséal pour l'éternité, on l'espère, et puis ce qui peut être aliénable. Alors ça peut paraître choquant, mais en fait c'est logique.
Bon, a priori, vendre des œuvres d'art, c'est pas choquant. Donc,
Une fondation à but non lucratif, ouais, vendre des œuvres d'art à deux missions, deux objectifs principaux. Le premier, c'est de faire un petit peu d'argent. Quand on est à but non lucratif et qu'on n'est pas soutenu de manière structurelle, il faut bien que l'argent vienne de quelque part, d'une part. Et puis d'autre part, c'est la mission d'une fondation de redistribuer dans l'espace public des œuvres d'artistes qui ne sont plus distribuées de cette manière-là. Donc les artistes n'ont pas créé pour être stockés dans des caves. Ils ont créé pour être vus dans l'espace privé et public.
Mon étonnement, c'était plutôt, c'est au moment de recevoir le fonds que se décide ce qui va se vendre, ce qui ne va pas se vendre. Dans une exposition comme celle dont nous allons parler dans la deuxième partie, il n'y aura pas de petits points verts et de petits points rouges. A priori, ce sont des œuvres inaliénables, c'est le mot que vous avez utilisé.
C'est ça, oui.
Ouais. Bon, Léa Béguin, quand j'imagine un chercheur, une chercheuse, historien, historienne de l'art, vient vous voir en disant, moi j'aimerais faire mon doctorat sur une des artistes qui est exposée là, c'est la fête du coup, la mission est remplie. Vous pouvez mettre à disposition ce fonds.
Ah oui, alors la Fondation Atelier d'Artistes serait extrêmement contente de pouvoir justement mettre le processus créatif à disposition, les archives, ses œuvres. Donc oui, le but c'est justement que l'artiste, que ces artistes femmes, mais aussi hommes, hein, de cette fondation soient connus et que des recherches soient faites sur ces artistes, bien
vous
sûr.
Vous êtes prof d'histoire de l'art, non, Philippe Canel?
Oui, oui. Oui.
Vous accueillez un peu vos étudiants
allez vers la fondation. La première publication qui s'intitulait Redécouverte en 2021 est une publication dont les notices ont été rédigées par des étudiants, qui était une expérience intéressante pour eux, parce qu'ils avaient pour la première fois la possibilité de travailler sur les œuvres elles-mêmes et pas sur des reproductions, de travailler sur de la documentation et de travailler sur des artistes sur lesquels ils devaient souvent produire le discours pour la première fois.
Étudiant de l'université de Lausanne, hein, c'est là que vous enseignez.
Lausanne, oui. Mais Léa vient de l'université de Neuchâtel, elle s'est spécialisée en muséologie, elle vous en parlera plus longuement.
Bon, moi justement, hein, avant de parler de cette affaire de montrer les œuvres, ça sera l'objet de la deuxième partie où on va beaucoup parler de cette exposition, il y a la conservation des œuvres. Hein. Encore une fois, quand on parle du rôle des musées, on sait qu'ils ont des endroits de conservation, Léa Béguin, extrêmement climatisé, extrêmement avec des contraintes fortes, hein, pour que les œuvres ne se dégradent pas. Mm-hmm. Alors voilà, une fondation à but non lucratif, ce sont des moyens difficiles, j'imagine, que ceux qu'exige la mission que vous vous êtes donnée.
Oui, mais heureusement, on a Walter Schopp, qui était l'ancien conservateur du musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, qui est là aussi pour gérer toutes ces questions. Et donc, effectivement, on a des lieux qui permettent d'accueillir.
Donc les locaux ici à Saint-Maurice, voilà, où nous sommes, il y en a d'autres aussi loin de l'espace d'exposition. Hein.
Oui, alors maintenant dans Saint-Maurice, on a d'autres un lieux empire. Un peu qui commencent
un empire
à Gournois.
Oui, mais la fondation ne joue pas au Monopoly. Disons, il se trouve qu'on a eu, alors c'est une histoire un peu complexe, mais qu'on a pu acquérir cet ensemble d'immeubles sur la place centrale de Saint-Maurice, en face de l'abbaye qui abrite un autre trésor. Oh. Il n'y a pas que le nom.
Avec ses défis de conservation.
Il y a celui d'en face. Oui. Donc ce sont des bâtiments souvent anciens, qui datent du XVIIe siècle. On dit même que Napoléon aurait passé une nuit dans un de ces bâtiments, je ne sais pas.
Mais en tout cas,
ce sont des bâtiments qui, du point de vue des conditions de stabilité, de température et hygrométrique, sont très bons.
D'accord. Donc pas besoin de trop de technologies supplémentaires, disons, pour conserver ces œuvres.
Non, la qualité climatique, l'hygrométrie de toutes les pièces, là où sont stockées les œuvres, est régulièrement vérifiée et elle est très stable.
Voilà, alors on va venir dans la deuxième partie de cette émission à l'autre mission, hein, celle que tout un chacune peut voir, c'est celle de montrer ses œuvres justement, et c'est l'objet de cette exposition qui est à voir jusqu'au 7 juillet de cette année. On en parle dans la deuxième partie, à tout de suite. Voilà, nous sommes de retour dans ces locaux agonois de la Fondation Atelier d'Artistes avec nos invités Léa Béguin et Philippe Quesnel, qui tous les deux ont assuré l'organisation de cette exposition Femmes et Artistes après 1930. On va en parler. Alors, il y a trois notions à aborder, c'est femmes, c'est artistes et c'est après 1930. On va commencer par la dernière. Léa Béguin, pourquoi cette date, elle a quelque chose de particulier? C'est un passage?
En fait, c'était à partir de cette date-là qu'on a des œuvres des artistes. Donc, il a fallu un moment mettre une date.
Voilà.
Et du coup, c'était ce titre qu'on a donné.
Bon, j'ai vu, j'ai regardé un peu les, ce que j'ai trouvé. Hein. On va voir qu'un des objets de cette exposition, justement, on ne trouve pas grand-chose sur ces, sur ces femmes artistes. Mais enfin, il y en a qui sont nées au tout début du siècle, qui avaient donc une trentaine d'années après 1930. Mm-hmm. D'autres qui sont encore en vie. Hein,
c'est ça, oui. Et... on en a 6 qui sont encore en vie. Et 4 qui sont encore actives.
Bon, qui sont-elles, ces femmes? On va peut-être pas toutes les citer, mais Philippe Canel, des femmes peintres pour la plupart?
Pour la plupart peintres, avec beaucoup de dessinatrices et des graveuses. La gravure joue un rôle important dans les carrières féminines. Un petit peu comme d'ailleurs la vidéo jouera un rôle important dans les années 1970.
Par rapport au cinéma.
Par rapport, non, l'art vidéo sera vraiment pris approprié
par les femmes
comme un instrument de revendication et comme un instrument d'expression artistique. La gravure joue ce rôle
On va y arriver tout de suite. Hein. Il y a une invisibilisation des femmes dans le monde de l'art. On va laisser l'économie, la politique à leurs problèmes dans ce créneau-là, mais dans le monde de l'art, c'est assez clair. En marchant pour venir à vous, je me disais, mais quelles sont les femmes artistes du XXe siècle que je connais? Alors j'ai pensé à Camille Claudel, mais c'est grâce au film, c'est grâce à Isabelle Adjani.
C'est
grâce à Rodin, bien sûr. J'ai pensé à Marie Laurencin, c'est grâce à Jo Dassin. Bon, à part la boutade, c'est vrai que voilà, elles sont invisibilisées, elles sont derrière les hommes. La gravure, c'était un sous-genre qui leur permettait de qu'on les laisse faire. C'est un peu ça.
Non, c'est une pratique qui leur permettait de travailler en atelier et qui est une pratique aussi qui leur a permis de diffuser leur œuvre. À la différence des œuvres uniques, la peinture est difficile à montrer et à vendre, tandis que la gravure, elle, peut être diffusée, notamment à travers le livre. Là, nous sommes dans une salle où nous présentons des éditions illustrées, et le livre illustré, le livre d'artiste, comme on l'appelle, est un instrument important pour obtenir
une
reconnaissance.
Mais vous avez utilisé le mot revendication, hein. Ça veut dire que c'était plus difficile d'aborder une galerie d'art, de vendre des tableaux.
C'était. Les choses ont changé.
Ah bah j'espère, là, on parle de j'espère.
Mais alors, ouais. pour revenir à ce que disait Léa tout à l'heure, pourquoi 1930? C'est parce que c'est un peu la première génération des artistes professionnels qui vont essayer de revendiquer un statut équivalent à ceux des hommes peintres, puisqu'on parle de femmes peintres, on ne parle jamais d'hommes peintres, comme si ça allait de soi. Et donc, dans cette première génération, il y a des femmes fortes, vraiment très fortes, des femmes puissantes qui vont présider des sociétés d'artistes, etc., etc. Donc, il ne faut pas nécessairement faire de ces artistes femmes, de ces femmes artistes, de ces créatrices, des figures dominées de l'histoire de l'art. Ça n'est pas du tout le cas, pas toujours le cas.
Alors, c'est probablement pas le cas dans leur personnalité, Léa Béguin, mais dans le grand public, en effet, le patriarcat a fait son œuvre. C'est ça, en fait, le problème.
C'est
on
un
peut
peu
toujours
ça,
ramener à ce mot.
Oui, effectivement, je pense qu'il y a un certain... jusqu'à un certain point où le génie masculin était plutôt valorisé par rapport au génie féminin. Et je pense que oui, effectivement, il y a eu une invisibilisation jusqu'à un certain point. Et c'est vrai que, comme vous disiez, quand on demande à des personnes qui sont moins, qui connaissent moins l'histoire de l'art, quand on demande de citer un nom d'une peintre, une peintresse, on dit aussi. Par exemple, il y a le nom de Frida Kahlo qui sort, mais c'est vrai
J'aurais pu penser.
Ouais, voilà. Ouais. Mais sinon, c'est vrai que. Il y a peu d'artistes qui ressortent comme ça.
Oui, ou des femmes de peintres.
Oui,
les
voilà.
Sonia Delaunay, par exemple, etc. Et on a ces quatre figures ici dans l'exposition, c'est-à-dire de couples.
Mmh. Bah, c'est le cas pour Frida Kahlo avec Rivera, c'est le cas pour Camille Claudel qu'on évoquait, alors c'est la sculpture. Camille Claudel-Rodin, c'est quand même quelque chose d'extrêmement révélateur. Hein. C'est la partie visible de cet iceberg-là.
Et plus récemment, Yannick Itzinfal et Tingli, etc.
Bon, avec 50 ans de distance peut-être, et puis déjà les choses qui avaient changé, parce que Itzinfal a eu une vraie renommée et n'a pas été enfermé dans un asile, enfin pour autant que je le sache.
Non, mais regardez à la télévision ou sur Internet les interviews de Tinguely et Yannick Itzinfal et vous verrez bien comment se jouent les relations de genre, comment dire, entre artistes hommes et artistes femmes face aux médias.
On s'adresse à l'homme et puis la femme est à côté, hein, c'est ça.
Un peu, mais c'est dans la prise de parole, c'est dans la manière de se positionner, dans les postures. C'est très frappant. Ouais,
ça pourrait faire mal aux Fribourgeois que je suis, mais on pourrait dire que Nicky a gagné. On la connaît plus que Tinguely aujourd'hui, non ?
Actuellement, c'est une superstar, comme Germaine Richier, etc. Elle fait partie un peu de la phase, on pourrait dire, revanche. La revanche des femmes.
Si on parle de Frida Kahlo et Diego Rivera, c'est la même chose. Hein. Diego Rivera était une superstar à son époque. Aujourd'hui, on ne parle maintenant plus que de Frida. Bon, on va revenir quand même à ces femmes artistes romandes avec leur destin. Donc, Léa Béguin, on n'a pas affaire à une cohérence de style. Hein. Il y a toutes sortes de styles, toutes sortes de supports. Philippe Canet elle le disait tout à l'heure. Comment vous avez fait? Alors déjà, vous avez indiqué quelque part que la Fondation est riche d'artistes femmes. Ça veut dire quelque chose, ça?
Oui, c'est parce qu'on a 30% d'artistes qui sont femmes. Et lorsqu'on regarde par rapport aux collections des musées, c'est beaucoup plus. Mais ce n'est pas la parité, mais c'est beaucoup plus que lorsqu'on regarde les collections publiques ou les collections du musée.
Donc les musées sont plus... voilà, il faut un MeToo musée.
Parce que les choses sont en train de s'inverser.
Mais alors ça c'est vraiment puisque vous êtes historien d'art tous les deux, mais Philippe Canel, je me tourne vers vous, il y a une vraie tendance dans les travaux des historiens en musique, c'est très clair aussi, on va rechercher les compositrices au cinéma, on apprend que les premiers films scénarisés c'est une femme, j'ai oublié son nom mais ça m'avait assez marqué de l'apprendre. Vous vous inscrivez dans cette vague là qui est une vague très positive.
Oui, mais on n'est pas militant pour autant, on n'a pas de cause à défendre. On aimerait simplement rendre compte d'une partie des collections de la Fondation Atelier d'Artistes et se trouve qu'une partie signifiante, enfin importante de ces collections est constituée par des œuvres de créatrices. Donc c'est ça la démarche. On ne va pas, ici, dans le cadre de cette exposition, faire du militantisme. Ça sera peut-être le discours tenu par les artistes qu'on va inviter pour diverses tables rondes, mais on verra. On verra.
On va pas tirer de généralité, mais elles ont eu des vies d'artistes sereines, difficiles, frustrées. Si on pense justement à cette invisibilisation, à cette difficulté à s'accrocher aux cimaises des galeries, pour ce qu'on en sait.
Très variable.
Il y a sûrement des destins variables, bien sûr.
C'est très variable. Tous les artistes ne sont pas Van Gogh ou Picasso, hein. Torturés ou dominants. On a tous les cas de figure dans le cadre de ces artistes. Il y a des femmes qui ont vraiment, comme je l'ai dit, joué un rôle important, institutionnel, des femmes fortes, vraiment, comme Violette Dizeran, Christiane Cornu, Nanette Genoux. Et puis, d'autres femmes qui ont plutôt misé sur soit les arts appliqués, soit une certaine forme d'intimité.
Et même, par exemple, Christiane Cornu, elle enseignait, donc elle réalisait ses créations pendant les vacances. Donc il y a aussi... Il y a vraiment des artistes, même si c'était une artiste forte, bah, elle devait quand même travailler aussi en tant qu'enseignante à côté.
Est-ce qu'on a théorisé, Philippe Canel, quand des femmes surgissaient, on parlait de Camille Claudel par exemple, mais il y en a eu d'autres, des impressionnistes, etc. Est-ce que les critiques d'art de l'époque, garants du bon goût, théorisaient une faiblesse de la femme par rapport à la création masculine? Je pense à ça parce qu'en musique, toutes les critiques sur Germaine Taillefer par exemple, qui faisait partie du groupe des Six dans les années 20, c'était, voilà, très bonne musicienne, mais c'est joli, c'est frais, c'est aéré, etc. C'était que des mots comme ça, des mots qu'on estimait devoir étiqueter sur la femme, et jamais on aurait dit les mêmes mots sur sur Francis Poulenc, qui était son copain du groupe des Six, par exemple.
Aujourd'hui, dans un autre domaine qui est celui de la politique, les remarques sur les tenues vestimentaires des femmes sont pas monnaie courante, mais sont fréquentes. On ne parle jamais de la tenue vestimentaire des hommes. Non, indépendamment de ça, c'est vrai que l'aspect femme est un aspect qui a toujours été pris en compte dans le discours critique, souvent de manière critique au sens négatif du terme, mais ça n'est pas le facteur explicatif de leur vie et de leur carrière. Ça n'est pas parce qu'elles sont femmes qu'elles ont réussi ou qu'elles n'ont pas réussi. Il y a toute une série de facteurs qui entrent en ligne de compte. Là, on pourrait venir parler de certaines figures exposées pour voir dans quelle mesure certaines venaient par exemple de milieux bourgeois, n'avaient pas trop de questions à se poser pour faire bouillir la marmite. D'autres, par contre, ont vraiment trimé toute leur vie. Certaines ont pratiqué l'abstraction et donc essayé de miser sur cette modernité-là. D'autres ont misé plutôt sur la figuration. Léa,